de Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur du prix Marc-Vivien Foé. Pierre-Emerick Aubameyang est l'invité spécial de Radio Foot International.
Radio G 101.5 FM.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Bonsoir, ça faisait longtemps, une semaine complète et totale d'émissions qui se profilent devant nous, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 4 jours, c'est incroyable, ça faisait des mois, des semaines et des mois que c'était pas arrivé. Une semaine complète, alors je vois qu'il y en a qui en ont profité pour bronzer un petit peu. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Ça y est, c'est déjà la fin du volontariat en service civique, j'ai l'impression.
C'est ça, j'ai pris quelques jours de congé, on va dire.
Ouais. Et alors ce bronzage, c'est Saint-Saturnin ou
c'est Blaison Goyer. J'ai fait un tournoi de sixte là-bas, donc le sixte, pour ceux qui voient pas, c'est un tournoi de foot 6 contre 6 et j'ai pas mal bronzé parce que c'était toute la journée.
Quand voilà. J'aurais presque envie de modifier le sujet de l'émission de ce soir pour m'intéresser au tournoi de sixte. Dis donc, petit programme quand même de la semaine qui s'annonce. Mardi, demain, nous serons avec le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, le THV. Mercredi, on sera avec l'équipe du Foin dans les Granges et jeudi, on sera à la fois avec Docteur Milou et l'épicerie Racine. C'est Suzanne qui va se charger de... On sait qu'elle aime les animaux, donc voilà, elle va se charger de poser les questions à Docteur Milou. Ce soir, on est avec Laure de SparkleCon et avec Tanguy d'Apro Utilitaire du côté de Saint-Mlaine-sur-Aubance, par là-bas. Alors de quoi on va parler ensemble? On va parler non pas de service civique, mais d'alternance, puisque SparkleCon propose des solutions d'alternance en communication aux entreprises dans son offre justement de communication. Enfin, c'est pour présenter d'une manière générale, mais Laure nous expliquera plus précisément tout à l'heure de quoi il s'agit exactement et Tanguy nous parlera et de ses activités, mais aussi de cette solution qu'il a choisie lui pour son entreprise et sa communication. On part en balade avec Camille tout à l'heure, on va faire un petit tour du côté de Cointreau et puis du carré Cointreau. Et Mathéo, je suis en train de penser, t'avais une brève aussi tout à l'heure.
Exactement, j'ai une brève sur les Guinguettes, voilà ce petit restaurant qui marche bien dans le Maine-et-Loire, donc on va pouvoir revenir grâce à trois personnes issues de trois Guinguettes différentes sur ce que c'est.
Est-ce qu'on a une Guinguette à Blaison Goyer?
Je pense pas, ça m'étonnerait.
Non, bon bah ce sera affaire à suivre. Topette, c'est parti, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram mais aussi sur TikTok, parce que oui, on est moderne, on est jeune.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Alors Mathéo a beaucoup pris la parole parce que ce soir, ce n'est pas lui qui est au flash, mais bien Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
On commence avec une information, un mort et près de 200 interventions médicales et plus de 5000 infractions après une rave party dont on a entendu parler du côté de Saumur.
L'événement qui se tenait illégalement sur un champ privé de la commune de Parney près de Saumur a viré au cauchemar ce dimanche matin après le décès d'un trentenaire. La rave party qui a débuté jeudi 9 mai a réuni 10 000 personnes. Après l'annonce faite sur scène du décès d'un des participants, les festivaliers ont quitté Parney ce dimanche vers 10h plus tôt que prévu. À la mi-journée, les autorités recensaient 198 interventions médicales, dont 10 hospitalisations. En fin d'après-midi, ce dimanche, une vaste opération de gendarmerie a été lancée. Une centaine de militaires étaient présents sur le site. Ils ont été pris à partie par des teufeurs restés sur place. Une dizaine de postes de contrôle ont été mis en place autour du rassemblement. 63 mètres cubes de matériel ont pu être saisis lors des contrôles routiers et plus de 5000 contraventions ont été dressées pour un montant total de plus de 650 000 euros. La moitié d'entre elles concernaient des tapages nocturnes. 2100 ont été adressées pour des participations à une manifestation interdite. Les autres concernaient des conduites en état d'alcoolémie ou sous stupéfiants, mais aussi des infractions de la route ou la détention de stupéfiants. Deux procédures judiciaires ont été lancées, une première pour les dégradations du terrain, l'organisation de la manifestation illicite, les agressions sonores suite aux plaintes des riverains, également l'occupation illégale du terrain après la plainte du propriétaire. La seconde afin de rechercher les causes de la mort du trentenaire. Selon une source policière de l'AFP, il était sous stupéfiants, mais aucun lien pour l'instant n'a été fait avec l'arrêt cardiaque.
Un gros nuage de fumée noire aperçu du côté du parc Expo, Nolwenn.
L'alerte a été donnée peu après 8h30 ce lundi matin par un jeune Roumain qui habite le camp, route de Paris à Saint-Sylvain-d'Anjou, près du parc des expositions. Le feu serait parti d'une caravane dans laquelle une personne cuisinait. La piste de l'accident est privilégiée. Grâce à l'intervention de 22 sapeurs-pompiers, une partie du site et une maison mitoyenne ont pu être sauvegardées, mais la moitié du camp est partie en fumée. Des voitures, vélos et caravanes ont été détruits. Une trentaine d'hommes, de femmes et d'enfants ont dû être évacués. Ils ont été accueillis au Carré des Arts à Pelloy-les-Vignes par des bénévoles. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le quartier a été bouclé par la gendarmerie, l'accès au site interdit jusqu'à vendredi. Quelques mois plus tôt, un camp de Rome avait lui aussi été frappé par un incendie accidentel à Trélazé.
De la fumée noire et on passe aux nuages noirs, peut-être pour demain mardi niveau météo.
Demain, le ciel sera couvert une majeure partie de la journée. Le temps se découvrira légèrement en fin de journée. Les températures oscilleront entre 14 et 16 degrés. Côté trafic, quelques ralentissements sont à prévoir sur l'A87 dans le sens Angers-Cholet à hauteur de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Merci beaucoup Nolwenn. Nolwenn qui, si vous êtes habitué de l'émission, vous le savez, normalement ce sont les mercredis, mais à partir de maintenant, voilà, elle a entamé son stage, elle va remplacer petit à petit Mathéo qui va nous quitter, donc c'est toi qui vas faire les flash info à partir d'aujourd'hui jusqu'au moins toute la semaine, si ce n'est jusqu'à la fin de la saison. Affaire à suivre, elle n'est pas en alternance, mais on va quand même en parler de l'alternance avec nos invités de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Laure.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Laure Guérin, toi tu es dirigeante de Sparklecom. Alors qu'on précise, Sparklecom pour communication, c'est pas l'adresse d'un site internet, voilà, faut tout de suite évacuer ça. C'est une agence de communication donc et d'objets publicitaires avec parmi les missions, élaboration de stratégies com, des plans d'action, réseaux sociaux, flyers, enfin tout ce qui fait la communication pour une entreprise. Et t'es pas venue toute seule puisque t'es accompagnée de Tanguy, bonsoir Tanguy.
Bonsoir.
Tanguy Lenné, toi t'es dirigeant d'Apro Utilitaire 49. En gros, c'est du côté de Junier, c'est ça, Junier Saint-Melaine.
Oui, c'est ça, exactement.
Par là-bas. Alors, c'est un petit peu dans le nom, mais on pourra tout à l'heure en parler de tes activités. Le lien entre vous deux, c'est que Tanguy, tu as demandé à avoir une alternance en communication. Et justement, c'est une des offres que propose Sparklecom dans sa palette d'offres à destination des entreprises pour la communication. Mais avant tout ça, de parler d'alternance et tout, Sparklecom, moi je le présente comme ça, alors, mais peut-être que tu es plus habitué que moi et que tu as plus de détails sur l'étendue des actions, des activités de l'agence.
Oui, alors c'est plutôt bien présenté. Hein. Sparklecom, c'est une agence de communication globale 360. Donc on accompagne les entreprises, alors les créateurs d'entreprises, et puis les TPE, les PME qui veulent être accompagnés dans leur communication. Donc ça peut être de la stratégie de communication, tous les ans, comme la création d'identité visuelle, les supports de communication print, digitaux également avec les réseaux sociaux, les sites internet. Et puis en découle deux autres actions, les objets publicitaires et puis la partie événementielle. L'idée de l'agence, c'est d'accompagner, d'être l'interlocuteur de A à Z des entreprises sur l'aspect de la communication.
Alors vraiment de A à Z, et on va le voir tout à l'heure justement avec les alternances que vous proposez pour les entreprises. Sur l'historique de cette agence de com, c'est ton bébé, tu l'as créé?
Exactement, Sparklecom est né en 2021. L'idée c'était de pouvoir utiliser toute l'expertise que j'avais depuis une bonne dizaine d'années et de pouvoir réaliser donc la communication, l'objet publicitaire, l'événementiel dans sa globalité.
Alors pour qu'on se rende bien compte, toi Tanguy, du coup du côté de Apro Utilitaire 49, cette fameuse carte de France en vert avec le petit carré noir et tout, c'est marqué dessus. Hein. Quelles sont les activités, même si on le devine dans le nom, en gros c'est de la location à destination des professionnels de véhicules utilitaires, si je comprends bien.
C'est à peu près ça, ouais. En fait nous on s'occupe vraiment de tout ce qui va être lié à l'utilitaire, un petit peu comme vous pourrez retrouver votre garagiste qui va prendre votre véhicule en soin, votre voiture. On va proposer la vente de véhicules utilitaires, la location, en courte, moyenne ou longue durée, mais pas que, puisque derrière, on va avoir une partie d'atelier mécanique et carrosserie. Donc, on a vraiment une solution complète, plutôt destinée à du professionnel, pour y trouver des solutions rapides pour que le pro puisse faire son métier de pro et vraiment utiliser son utilitaire en tant qu'outil et qu'il soit le moins embêté possible avec ce véhicule.
Voilà, si on est une entreprise, une affaire avec besoin de véhicules et puis qu'on n'a pas envie d'avoir à se tracasser la tête, à devoir, alors, il faut combien de flottes de véhicules, est-ce que je dois m'assurer ici ou je sais pas quoi. En gros, c'est ce que propose la Pro Utilitaire.
Exactement,
49.
Essayer de trouver des solutions pour TPE, PME, qui ont besoin des utilitaires. Donc ça touche pas mal de professionnels. Ouais.
Combien de personnes dans l'équipe chez
Apro? 10 personnes.
10 personnes, donc ça représente pas mal de monde. Ce sont que des CDI ou justement, est-ce qu'on a des stagiaires, des alternants des...
On a beaucoup de CDI. Alors, on avait un alternant jusqu'à septembre. Donc là, on n'avait pas renouvelé, mais on avait un alternant qui était en communication chez nous. Parce que du coup, on est plutôt des gens de terrain. Et c'est vrai que sur toute cette partie communication qui est aujourd'hui hyper importante pour les entreprises, parce que c'est pas seulement d'être sur le terrain, de promouvoir avec nos clients nos offres. On a besoin aussi de cette communication, donc c'est pour ça qu'on avait eu besoin du support de Laure. Et on avait eu le choix, nous, pour Apro Utilitaire, de prendre une alternante qui allait faire un an, sauf que nous, la communication, c'est pas notre métier. Donc on a demandé à Laure de nous accompagner, nous, et d'accompagner une alternante aussi dans l'entreprise pour que voilà, elle cible ce qu'il fallait faire dans l'entreprise et faire les choses comme il fallait, quoi.
Et ben voilà, on commence à taper dans le fond du sujet. L'alternance en communication, bien précisément, c'est ce que propose SparkleCon. Avant tout ça, juste pour rappeler un petit peu l'alternance, c'est quoi le concept, Laure? En gros, on est dans une école et on est salarié en même temps, en fait, dans une entreprise.
Exactement, oui. C'est un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir être formé sur le terrain, donc d'avoir la théorie à l'école et puis la pratique dans les entreprises. Donc après, il y a plusieurs formules. Ça peut être deux fois ou trois fois par semaine en entreprise et puis on alterne avec les cours ou trois fois, trois semaines, une semaine. Donc on alterne et ça existe. Donc pour la communication, effectivement, c'est notre expertise. Donc on parle de la com, mais ça existe dans plein d'autres activités, effectivement.
Depuis combien de temps? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je crois que ça existe depuis longtemps dans certains domaines.
Ça existait déjà à mon époque, puisque j'en ai fait. Mais effectivement, ça existe depuis bien longtemps. Mais depuis les années Covid, ça a augmenté parce qu'il y a eu des aides aussi de l'État. Hein. L'idée, c'était d'accompagner les jeunes à pouvoir monter en compétences par le biais de la pratique, donc en entreprise. Et donc, ça a pris... C'est très dans l'air du temps, mais parce que ça fait ses preuves aussi sur le terrain.
Alors c'est beau sur le papier, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, du point de vue de la personne qui étudie ou d'un point de vue de l'entreprise, parce que la personne qui est en cours, ça lui permet déjà d'avoir un premier salaire, même si c'est pas un SMIC, mais au moins ça permet d'avoir une rentrée d'argent, ça permet aussi de se faire la main concrètement, et pour l'entreprise, bah, ça permet aussi d'avoir une solution peu chère, qu'on se le dise quand même, d'une certaine façon, et en même temps de former potentiellement quelqu'un qui pourra ensuite devenir un contrat, qui sait. Mais malgré ça, ça marche pas forcément toujours. Laure, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui coince parfois avec l'alternance.
Alors effectivement, à la base, l'alternance c'était fait pour permettre à l'entreprise d'embaucher quelqu'un à moindre coût pour qu'il puisse faire ses preuves pendant un an, deux ans, pour ensuite, au bout des deux ans ou des un an, d'être embauché et d'être directement efficace et productif. Mais alors après, l'avantage et le désavantage, c'est que l'État donc permet d'avoir des aides pour aider les entreprises à embaucher, à recruter. Mais bien souvent, les entreprises recrutent sans avoir les compétences en interne. Comme l'expliquait Tanguy, on prend un étudiant en alternance, en communication par exemple, mais personne ne maîtrise les compétences en communication. Donc, le problème, c'est que 90% des étudiants ne se sentent pas accompagnés en entreprise. Donc là, c'était un chiffre alarmant parce que depuis 2022, c'est monté en flèche. Mais là, on constate déjà en 2023, 44% des alternants trouvent des difficultés à être recrutés. Et puis après, bah, il faut trouver un salarié qui soit mobilisé pour former l'alternant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas toutes les compétences et qu'il est en formation.
Et pour ce qui est du sujet de la communication, voilà une solution que propose SparkleCon justement, et Tanguy pourra en témoigner avec Apro Utilitaire 49 dans quelques instants. Juste avant tout ça, on fait une première pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute D'amour et d'insouciance de Voyou.
Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois. Où le soleil s'invite à ma fenêtre, échange la poussière en paillettes. Comme c'est joli, ça me divertit. Puis Puis nuage passe, poussière s'efface. Alors à nouveau je m'ennuie. Seul dans mon lit, ça me rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser. Du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachin. Pourquoi toujours vouloir faire mieux? Travailler tard pour quelques sous, on ira boire pour être sous, pour aller mieux, mais mieux que quoi? Moi ça me suffit de brasser l'air avec mes bras. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, ah, ah non, je n'ai rien d'autre à faire, rien à détruire et personne à qui plaire. Je vis de presque rien.
D'amour et d'insouciance, et un petit peu d'eau fraîche aussi pour Mathéo qui se désaltère.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Ça fait du bien Mathéo de boire un petit peu d'eau comme ça en cours d'émission.
C'est parfait. Voilà.
T'as bronzé mais t'as pas bu beaucoup d'eau, j'ai l'impression, à ton tournoi de Sixte.
Si, bien sûr que si, que de l'eau même.
Bien sûr que Sixte même. Allez, tout à l'heure on sera avec toi pour parler des guinguettes et aussi se désaltérer, tiens, puisque normalement, mis à part demain, comme Nolwenn nous annonçait, un mardi nuageux, normalement le soleil et l'été, le printemps au moins devraient être de retour pour de bon. En tout cas, on parle pour l'instant d'alternance avec toi, Lord Sparkle. Comme agence de communication, on a parlé tout à l'heure pour la présenter, et puis avec toi Tanguy, on parle pas totalement d'appro utilitaire 49, mais on parle surtout de l'expérience du fait que t'aies fait appel à Laure pour cette solution d'alternance, car comme tu le disais tout à l'heure, il faut communiquer quand on est une entreprise, il y a 10 personnes, mais même quand on est une petite entreprise, il faut communiquer de plus en plus aujourd'hui, et pourtant ce ne sont pas des compétences que vous avez. Du coup, à quel moment s'est fait le lien avec la nécessité de faire appel à quelqu'un qui maîtrise ce sujet de l'alternance et de la communication pour pouvoir embaucher une alternante?
Parce que, en fin de compte, dans les entreprises, on avance tous les jours, on a des nouveaux besoins qui se créent un petit peu tous les jours en fonction de comment évolue l'entreprise. Et nous, il était arrivé à un point où on s'était dit, où moi je gérais les réseaux sociaux un petit peu tout seul, livré à moi-même. Sauf qu'on avait besoin de se professionnaliser aussi de ce côté-là. Et premier réflexe, se dit première étape, ce serait de prendre une alternante en communication qui est en veille de tout ce qui se passe, qui est à l'école, qui apprend, c'est la bonne première démarche. Mais le problème que moi je rencontrais, c'est que c'était pas mon métier. Donc j'allais accueillir une jeune alternante au sein d'un pro utilitaire, j'allais accueillir une jeune alternante et sans forcément avoir les armes pour lui apprendre son métier et lui donner la ligne de conduite à avoir dans l'entreprise. Et on fait partie d'un réseau avec Laure, et Laure a parlé de cette offre, et en fin de compte ça s'est tout de suite lié. En fin de compte, ce côté d'accompagner l'alternant m'a beaucoup plu, parce que je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui s'ennuie chez moi et que j'ai pas de boulot à lui donner et que ce soit une année de galère, parce qu'un alternant qui a pas d'armes dans une entreprise, je pense que c'est vraiment une mauvaise année pour lui, quoi.
Alors Laure, pour donner plus de précision, que propose Sparklecom justement sur cette solution d'alternance en communication auprès des entreprises? Comment est conçue, envisagée la chose? C'est quoi l'âme de ce point?
Alors en fait, la supervision d'alternance, ça rentre sur deux facteurs. Le premier, c'est accompagner donc le dirigeant dans sa stratégie de communication, chose qu'on fait déjà actuellement au sein de l'agence. Donc on établit notre expertise sur la stratégie de com avec le dirigeant. Quelle est sa stratégie d'entreprise? Comme l'a dit Tanguy, effectivement, la stratégie d'entreprise, elle évolue, les offres marketing aussi. Et puis, comment atteindre sa nouvelle cible? Comment atteindre sa cible en fonction des nouvelles offres? Donc on établit une stratégie de communication. Et quand on a la stratégie de com, on peut mettre en place des plans d'action. Les plans d'action, cette fois-ci, ils interviennent auprès de l'alternant qui rentre donc au sein de l'entreprise. Donc, comme Tanguy, son alternante était au sein de chez Apro. Et donc, on lui met en place des plans d'action qu'elle réalise et qu'elle monte en compétence par le biais de, voilà, s'il manque d'informations qui n'est pas forcément encore acquise, par exemple, notamment les réseaux sociaux. Voilà, on l'informe, nous, en interne, avec l'ensemble de l'équipe. On les monte en compétence et on fait en sorte que les plans d'action soient réalisables et atteignables pour l'alternant comme pour l'entreprise. En fait, c'est du gagnant-gagnant. L'idée, c'est que l'entreprise soit satisfaite d'avoir pris un alternant, de voir son alternant monter en compétences et d'atteindre les objectifs du développement de l'entreprise. Et puis, l'alternant, lui, il monte en compétences et puis il met en place des actions qui sont vraiment réalisées.
Donc, si je comprends bien, alors, vous n'avez pas un vivier d'alternants sous le coude. C'est déjà l'entreprise qui a fait ce choix-là et vous venez vous greffer à ça dans votre solution communication marketing.
Alors, j'avoue qu'il y a deux cas. Effectivement, il y a l'entreprise qui vient avec l'alternant qu'il a trouvé. Voilà, il a trouvé sa pépite. On fait avec l'alternant qu'il a trouvé. Et puis, il y a aussi, l'autre côté de la casquette qu'on a au sein de l'agence et que j'ai, c'est qu'à côté, j'enseigne dans les écoles supérieures, donc de bac plus 3 à bac plus 5. Donc, j'ai pas mal d'étudiants en alternance. Et puis, en tant qu'agence de com, on a énormément de candidatures. Donc, quand les entreprises viennent avec l'idée d'avoir un alternant, on a souvent un vivier qui permet aussi de voir, en fonction de la stratégie de l'entreprise, quel est le bon profil pour pouvoir matcher entre les deux. Parce que si on prend un alternant qui est expert en web design et qu'on veut faire durer des réseaux sociaux, ça va pas marcher.
Oui, d'autant que le secteur de la communication est souvent plébiscité par les jeunes, donc c'est vrai que ça ne manque pas de ressources. Le vivier est plein. Tanguy, après, donc là, l'alternante, c'était une jeune fille, c'est ça, hein,
oui, si tout j'ai bien à fait, compris. Ouais,
elle a fini. Maintenant,
elle a fini, ouais.
Donc, quel recul après cette expérience? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a vraiment été efficient? Plutôt satisfait, j'imagine.
Oui, satisfait. Alors, pour deux cas, c'est que du coup, quand on part de zéro, j'étais un peu paniqué au début. Et puis, du fait d'avoir Laure en support, c'est que ça m'a complètement libéré de ce point de vue-là. Et on a pu avancer, mettre des choses en place, créer vraiment une charte sur l'entreprise qu'on n'avait pas. Sa forme et l'alternant. Et aussi le chef d'entreprise, parce que on se voyait entre une fois à deux fois par mois selon les besoins, c'est juste qu'on avait déterminé à l'avance avec Laure. Et en fin de compte, c'est bénéfique pour tout le monde, et pour l'alternant, et pour le chef d'entreprise qui travaille et qui avance avec son alternant. Ça nous fait des temps dédiés tous les deux où on a pu avancer sur les choses et puis accompagner des professionnels qui savaient vers nous où nous orienter, quoi.
Laure, tu voulais réagir peut-être?
Oui, non, c'est totalement ça. C'est vrai que on peut avoir cette prise de hauteur pour la stratégie et aiguiller Tanguy. Et puis après, effectivement, ça permet, quand on peut se dégager du temps, d'être focus sur sa stratégie d'entreprise et sur ses plans d'action. Et le fait que ça soit à l'extérieur aussi, parce que c'était souvent à l'agence, mais on peut venir aussi à l'entreprise. Mais quand c'est un endroit externe à l'entreprise, ça permet vraiment d'être focus sur la vision qu'on veut donner à son entreprise et au plan d'action.
Et maintenant, alors, Tanguy, du coup, cette personne a été embauchée, elle est partie vaquer vers d'autres horizons. Est-ce que vous allez reprendre à Pro Utilitaire?
Alors, du coup, on a eu un cas un petit peu particulier, c'est que la jeune fille avec qui on était voulait re-signer sur une année. Elle a changé de voie, elle a complètement changé de domaine sur la fin. Donc, c'était son choix et nous, aujourd'hui, on encourage plutôt les jeunes plutôt qu'eux. Donc, elle nous est venue nous voir en mode. J'aimerais changer d'eux, donc on lui a dit, faut y aller, c'est le moment, elle a 20, tout juste 20 ans, donc c'est le moment de changer de voie, faut pas rester bloqué dans. Donc on n'a pas repris d'alternant tout de suite, mais c'est vraiment un souhait pour septembre de reprendre quelqu'un, parce que au sein de l'entreprise, on s'y est habitué. Là, ça fait un an qu'on n'a plus personne, et ça fait un an que ça manque à l'entreprise. Donc c'est vraiment un souhait aujourd'hui de reprendre un jeune en alternance, début septembre, sur Apro Utilitaire.
Bon bah voilà, en tout cas c'est une solution concrète qui marche et qui rend vraiment service aux entreprises, qui est proposée par Sparklecom. Il y a d'autres choses, on pourra les reciter tout à l'heure, hein, l'ensemble la palette d'actions que propose Sparklecom en termes de solutions communication et marketing auprès des professionnels, des entreprises. On se fait un petit détour par le Carré Cointreau en balade avec Camille et puis juste après c'est la brève d'actualité avec toi Mathéo.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part en visite guidée et on se rend à Saint-Barthélemy d'Anjou, à Carré Cointreau. Le Cointreau, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une liqueur d'orange créée en 1849 par Monsieur Cointreau. Aussi bon en apéritif ou en digestif, on le trouve aussi beaucoup dans des cocktails comme le Sidecar ou encore le Cosmopolitan. Partons donc à la découverte de cet univers et passons la porte de l'entreprise Cointreau. La visite débute dans une salle sombre. Projetée au mur, des explications sur l'entreprise ou encore la présentation du premier alambic de la famille. Puis, nous entrons dans le cœur de l'entreprise. On y découvre les alambics, la chaîne de distribution et la mise en bouteille. On y découvre aussi les différentes actions marketing au fil des années, des anciennes affiches aux crayons, allumettes ou jeux de cartes publicitaires. Nous finissons par une dégustation. Un cointreau noir nous est servi. Bon, j'avoue, c'est devenu un petit peu mon péché mignon, en apéritif. Délicieux, c'est un mélange de cointreau classique et de cognac. Enfin, on nous propose une démonstration de mixologie, la création d'un cocktail. Il faut un cobaye. Je jouerai le cobaye avec plaisir. On coupe un citron, on verse une lichette de cointreau, on remplit d'eau gazeuse et on finit par une rasade de glaçons. Un bon verre fut servi à tous pour un dernier moment convivial. Avant de rentrer à la maison, un petit détour à la boutique s'impose. Bon, forcément on craque. Une bouteille de Cointreau et une bouteille de Cointreau noir plus tard, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié? Tu peux passer de même à Giffard si tu veux découvrir leurs produits. À Avrillé, tu pourras y déguster des liqueurs de fruits, des sirops, mais surtout leur fameuse menthe pastille. Bonne découverte! Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Et si vous avez besoin d'idées balades, c'est dans l'onglet Podcast Plus, et ça s'appelle En balade avec Camille. Voici l'heure venue que vient la brève d'actu avec toi, Mathéo.
L'été arrive à grands pas, officiellement il faut attendre le 20 juin, mais certains cadres nous offrent déjà ce goût qui nous est si cher, si chaud, si beau. C'est le cas des guinguettes, ces petits restaurants éphémères dont l'ouverture rime automatiquement avec la période estivale. Ces lieux de fête, de convivialité, de contemplation parfois, dont les Français raffolent depuis le 19e siècle. On n'est pas vraiment sûr de l'origine du mot guinguette, celui-ci serait apparu aux alentours de 1697 avec comme base le verbe guinguer, devenu guincher avec le temps, qui signifie faire la fête, danser. La certitude qui s'offre à nous, c'est celle du succès en région parisienne, premièrement sur les bords de la Seine, un lieu passionnant pour les artistes. Guy de Maupassant en était très friand et en parlait dans ses œuvres. Certains peintres dont Van Gogh aimait les représenter en témoignent son tableau La Guinguette à Montmartre, datant de 1886. C'est ainsi que les guinguettes se forgent une vraie réputation avant de se dépêtre des frontières parisiennes pour aller conquérir tout l'Hexagone. Aujourd'hui, deux siècles plus tard, la France compterait environ 1500 guinguettes, un chiffre sérieux, mais assez imprécis puisque les guinguettes sont répertoriées dans la catégorie restaurant. Elles sont donc difficiles à repérer sans une dénomination propre. Toujours est-il que les guinguettes que nous côtoyons en 2024 sont bien différentes de celles que connaissait Guy de Maupassant. Les personnes dansent toujours, mais plus occasionnellement. Les guinguettes sont devenues des lieux de restauration où les gens se retrouvent en famille ou entre amis. Les cadres ont bien changé, les propositions sont plus variées. Le Maine-et-Loire et ses 30 guinguettes l'illustrent bien. La première à avoir vu le jour, c'est la guinguette à Jojo qui fête ses 65 ans cette année. Natalia Litvinova, responsable de la guinguette à Jojo depuis l'année dernière, nous parle de l'histoire de la guinguette.
Le premier propriétaire, il s'appelait Maurice. Il a eu un restaurant un petit peu plus haut que la guinguette. En voiture, c'est à peu près 3-4 minutes. Maintenant, il y a un magasin de déco. Et donc, elle a travaillé toute l'année dans ce lieu-là. Donc, ça s'appelait chez Maurice. Et dès qu'il commençait à faire beau, il mettait un petit mot. Il faut descendre en bas, je suis en bas. Et donc, en bas, c'était guinguette chez Maurice. Il est ouvert en 1959. Après, il y avait... deuxième propriétaire, c'est Jocelyne. Donc, c'est pour ça qu'il s'est appelé Guinguette chez Jojo. Et donc, nous, on est transformé à Jojo. Et Jocelyne, c'était une dame très commerçante. Et après, donc, c'est Olivier qui, il y a 26 ans, qui a racheté chez Jocelyne. Et donc, il gardait le même nom. Et donc, on l'a gardé pareil.
La Guinguette à Jojo devait entamer sa saison la semaine dernière. Initialement, c'était la date du 7 mai qui était visée, mais la Loire et les Puy en ont décidé autrement. C'est désormais à jeudi que l'ouverture devrait se faire. D'autres guinguettes ont été plus chanceuses. Le Héron Carré et le Rouge et Loire ont pu ouvrir en temps et en heure, respectivement le 25 et le 30 mars. Ça s'est joué de peu. C'est ce que Pierre-Antoine Guérin, responsable de la Guinguette du Rouge et Loire, nous explique.
C'est pas le mauvais timing. En fait, c'est que c'est jamais arrivé à ce point-là. Au mois d'avril, c'est vrai que c'est venu clairement lécher la terrasse. Ça s'est joué à que dalle. Du coup, effectivement, ouais, on a eu peur. Et une fois cette peur-là passée, on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de chance, parce que ça rendait le lieu encore plus sympa. Mais oui, ça a été sacrément chaud. Ouais. Ouais.
Un cadre unique en ce début de saison. Le Héron Carré a aussi eu le droit à son décor magnifique. Le parc Balzac était totalement sous l'eau. Depuis tout à l'heure, je parle des deux établissements comme s'ils ne formaient qu'un, lien que Étienne Mater, programmateur du Héron Carré, nous explique.
On est la même entreprise avec deux établissements que sont le Rouge et Loire et le Héron Carré, avec deux propriétaires. On a des prestataires communs, des fournisseurs communs, etc. On bosse ensemble. Après, c'est vrai qu'une fois que la saison elle est lancée, on est un peu plus chacun à gérer son établissement, d'autant plus qu'en fait, ça peut être la même entreprise, c'est deux établissements dans deux endroits qui sont complètement différents. De guinguettes qui vont pas au même rythme, qui ont pas la même programmation, qui ont pas la même fréquentation en termes de nombre, hein, je parle bien, parce que c'est souvent plein Rouge et Loire aussi, etc., etc., et qu'en fait, on est un peu séparés, effectivement, pendant la saison, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, pas les mêmes programmations, et voilà, mais ça donne deux endroits qui ont leur identité propre, en tout cas.
Les interviews portées sur la Guinguette à Jojo et le Héron Carré et le Rouge et Loire sont disponibles sur le site internet de la radio, dans la rubrique Topette Plus.
Oui, ça s'appelle la guinguette. C'est guinguette, c'est bar. Ça s'appelle. Je me suis dit que ça serait raccord avec.
C'est dans le thème, c'est beau.
Avec ta brève d'actualité, donc à retrouver effectivement dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Tanguy, Laure, vous avez vu, nous aussi, on fait de l'alternance entre d'un sujet à un autre. On passe de à peu près tout ce qui se passe sur le territoire. Ça guinche un petit peu en guinguette, Laure?
Pas encore cette année.
Pas encore cette année, on attend peut-être que le soleil arrive. Tanguy, du côté de Saint-Melaine ou de
Vigny. Ouais, je suis assez friand. J'ai quelques clients qui ont des guinguettes aussi, donc je suis consommateur de guinguettes, ouais.
Bon, en tout cas, c'est pas de ça qu'on parlait ensemble ce soir. On parlait donc des solutions proposées par Sparklecom, agence de communication et d'objets publicitaires, et notamment dans l'offre proposée, cette solution de suivi d'alternance pour les personnes qui sont en alternance, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin. Alors, on a déjà expliqué un petit peu tout le concept juste avant. Je voulais faire réagir nos jeunes de l'équipe, notamment toi, Nolwenn, qui pourrait être potentiellement en alternance. Toi, si tu as bien compris le concept proposé par Laure et son agence Sparklecom, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que, en tout cas, j'étais en licence de communication à l'UCO à Angers. Et j'ai énormément d'amis qui font un master en communication après et qui recherchent une alternance. Et ils ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver une alternance. Donc, c'est vraiment une super solution.
Et toi, Mathéo, alors, quel regard tu portes? Tu as fait un service civique, c'est pas tout à fait pareil. L'alternance, bonne idée?
L'alternance de base, oui, je pense que c'est une excellente, excellente idée. Je me rappellerai toujours d'un micro-trottoir qu'on avait fait en début de saison. Et j'avais rencontré justement des gens en master. Et ces personnes-là nous disaient, on manque d'expérience. Ils sortent de leur master et parfois ils ont fait un ou deux stages et c'est vrai que c'est peu et l'expérience en entreprise ça compte beaucoup. Et puis là c'est un gain de temps notoire pour et les entreprises et les jeunes, parce que comme l'a dit Nolwenn, c'est vrai qu'on prend du temps, hein, rechercher des alternances. Moi, j'ai pas mal d'amis qui contactent toutes les entreprises issues du domaine dans lesquelles ils ont envie de se diriger, donc c'est vrai que c'est du temps de malade, et si on n'est pas formé sur la communication aujourd'hui avec tous les outils qu'il y a, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, ça va me permettre de rebondir, j'avais une petite question à te poser, Tanguy, parce que forcément, la communication dans une entreprise comme la tienne, on peut vite se retrouver tout seul dans notre bureau la plupart du du temps sur notre journée. Donc j'aurais aimé savoir justement comment toi t'as transformé cette expérience professionnelle en expérience d'entreprise aussi.
C'était surtout un échange avec les équipes en local dans l'entreprise, je veux dire. C'est-à-dire que l'alternante, elle était avec une personne qui s'occupait de la vente, partageait en live les relations clientèle qu'elle pouvait avoir. Elle était connectée tout de suite avec tout ce qui se passait dans l'entreprise. On a des liens assez forts entre nous, entre tous les collègues avec qui on travaille. Donc voilà, elle était baignée dedans complètement. Elle n'était pas livrée elle-même. Elle voyait comment fonctionnait l'entreprise et elle a très vite compris comment fonctionnait l'entreprise.
Ok, donc oui, elle a connu totalement la vie de votre entreprise à temps plein tout le temps, quoi.
Bien sûr, par tous les services.
Ok.
Voilà, même si elle était en alternance, elle vivait l'entreprise à Pro Utilitaire 49. Laure, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux dirigeants, dirigeantes d'entreprises qui hésiteraient peut-être, qui verraient peut-être trop d'inconvénients? Parce que c'est vrai que, on n'a pas la personne à disposition, entre guillemets, tout au long de l'année. On sait que potentiellement, c'est un petit peu le cas avec toi, Tanguy, que ça peut ne pas déboucher sur un contrat derrière, parce que la personne a peut-être d'autres projets, mais pour évacuer un petit peu tous ces doutes qu'on pourra avoir sur l'alternance, qu'est-ce que tu mettrais en avant, toi ?
J'ai envie de dire, quand on veut prendre un alternant et qu'on hésite, on peut hésiter parce que on peut avoir justement pas les compétences et surtout pas le temps. En fait, il faut prendre le temps de former, parce que plus vite on forme, plus vite ils ont les compétences, plus vite ils vous aident à développer l'entreprise. Le but d'un alternant, c'est de monter en compétences, comme je le dis, mais c'est surtout de faire développer l'entreprise selon les objectifs du dirigeant.
Bon, ça, en tout cas, c'est une petite partie de l'alternance, enfin de ce qui est proposé par Sparklecom. Il y a des actualités ou pas vous concernant en ce moment qui arrivent du côté de l'agence ou je sais pas, peut-être des événements. Tu parlais de l'événementiel tout à l'heure aussi.
Alors, il y a eu l'événement, il y a eu le salon de l'habitat il y a quelques temps où on a pu retrouver certains de nos clients qui exposaient. Donc, on les avait accompagnés sur la création de leur stand, la stratégie, les supports de communication adéquats. Et puis là, dans les actualités, on a pas mal en ce moment de création d'entreprise. Donc là, c'est pareil, il y a de la stratégie d'entreprise, il y a de l'identité visuelle et puis tous les supports de com qui en découlent.
Alors comment on fait pour découvrir Sparklecom, se renseigner, éventuellement prendre contact avec toi pour se dire « Tiens, moi je suis une entreprise et je galère un petit peu, j'ai envie d'avoir une solution qui est proposée par Sparklecom ». Ça marche comment ?
Eh bien aujourd'hui, on a notre site internet, donc c'est sparklecom.fr. Effectivement, on pourrait se tromper, mais...
Alors Sparklecom à l'anglaise, faut bien, c'est le...
Sparklecom.fr. Et puis après, on est sur tous les réseaux, forcément, essentiellement donc LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest. Et puis depuis peu, on est aussi sur YouTube. Mais
il y a pas TikTok. Non, t'as pas dit TikTok.
Non, il y a pas TikTok.
Il y a pas TikTok encore.
Non, non.
Bon, peut-être vous recherchez peut-être une alternance pour prochainement, non ?
Alors on a eu des alternants. Là, l'objectif de l'entreprise, c'est de recruter en interne et puis d'avoir les équipes à temps complet.
Merci.
Et puis voilà, la formation forcément, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter Sparklecom et surtout ce point qu'on retrouve peu ailleurs, d'accompagner l'alternance en communication bien précisément. Et on espère que dans les autres domaines, ça pourra aussi se développer et que ce sera proposé comme solution. Tanguy, concernant Apro Utilitaire 49, du coup la communication, j'imagine qu'il y a des réseaux sociaux qui sont actifs et bien faits désormais pour vous découvrir.
Ouais, tout à fait. Nous, on est sur les réseaux sociaux. On va utiliser Facebook, LinkedIn et Instagram. Après, on a notre site internet où on peut retrouver nos différents services www.apro-utilitaire.com. Et puis voilà. Après, n'hésitez pas à venir nous voir. On est présent. On accueille tout le monde.
Au 5 route de
Taillebois. Exactement.
Voilà, à Saint-Melaine-sur-Aubance, près de l'échangeur, par là-bas, du côté de Junier, près de la déchetterie, c'est ça tu disais,
Oui, c'est ce que Tanguy me disait en off.
Ouais, je valide. Exactement.
Bon, merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'être passés ce soir dans Topette. On vous souhaite bon vent. Nolwenn, on se retrouve demain pour un nouveau Flash Info. Mathéo, t'es toujours là demain, rassure-nous.
Mais bien évidemment, Pierre-Benoît, encore pour deux semaines.
Tu fais un peu de sport,
toi, me supporter. De sport ?
Ouais.
Le tournoi de Sixte de
jeudi. C'est vrai, tiens, ce sera l'occasion peut-être de t'inviter pour nous en parler du tournoi de Sixte. En attendant, on va rester en sport et on va se quitter avec une interview de Philippe Miro, le photographe de Teddy Riner. C'est raccord avec le thème des JO et la flamme olympique qui arrivera le 28 mai à Angers. On vous le rappelle, à demain, prenez soin de vous et Topette.
Topette.
On 2007. C'est ses premiers championnats du monde, en fait, à Rio. Il a 18 ans. Et je dis à mon agence, écoutez, ça serait bien qu'on y aille parce que c'est un garçon, à mon avis, qui va exploser. Et mon agence me dit non, Rio, ça va être trop cher. Si jamais il perd, ça servira à rien. Et en fait, ce jour-là, il gagne.
Philippe Miroux est l'un des photographes du Comité National Olympique et Sportif Français. Il est aussi cofondateur de l'agence KMSP, spécialisée dans les sports olympiques. Dans le cadre du festival Millième de Seconde, c'est son travail en tant que photographe personnel de Teddy Riner qui est mis à l'honneur. Des moments de joie, aux moments de larmes, Philippe nous plonge au cœur de l'intimité du judoka français le plus titré en championnat du monde. Une interview réalisée par Pierre-Benoît Leclerc.
J'étais le photographe particulier, par exemple, de Marie-Jo Pérec pendant 4-5 ans, de Christine Aron pendant 7-8 ans, de Virginie Ledieu qui était en natation synchronisée pendant quelques années. Teddy, c'est arrivé, je dirais, tout naturellement. À l'époque, j'étais dans une structure, on était en contrat avec la Fédération Française de Judo. On a vu apparaître ce gamin, à l'époque il avait 14-15 ans, il mesurait déjà 2 mètres, mais il était tout fin. Les premiers championnats de France qu'on a fait cadet, évidemment, il les a gagnés. Il a explosé tout le monde. Et je le rencontre fin 2007, en fait. Et on décide d'un commun accord avec lui et son avocate. À l'époque, il avait déjà pris une avocate pour gérer son image, sa carrière, ses partenaires. Et donc, on s'est dit, on va travailler ensemble. Et depuis, on travaille ensemble, voilà.
Cette intimité, qu'est-ce que tu cherches à montrer? Pourquoi tu photographies pas simplement plutôt les coulisses que l'intimité? Là, on va loin, en fait, dans l'intimité.
À force de se connaître, on s'est rapprochés. En fait, Teddy, il sait que quand il a affaire à moi, il a entièrement confiance. Il me demande aucun droit de regard sur les images, par exemple. Et il est très en confiance. Donc, en fait, on s'est rapprochés petit à petit. Et puis, pour citer une anecdote, un jour, c'était en 2012, je crois, il m'appelle un vendredi, il me dit « On part en mer de Chine sur une île totalement perdue avec Loutnak et sa compagne. » Il me dit « Ça serait bien que tu viennes. » On part lundi. Ah, je lui dis « Teddy, il faut quand même que je m'organise. » Elle me dit « Tu te débrouilles, mais tu viens. » Et donc le lundi, j'ai fait 24 heures sur place pour 36 heures de voyage. Donc c'est comme avec Teddy, c'est souvent sur des coups de cœur comme ça. Il t'appelle, il dit je vais là, est-ce que tu peux venir, est-ce que t'es libre, et quand je suis libre, je le fais. Et puis mon travail, c'est aussi de le suivre sur toutes les compétitions. J'ai fait tous ces championnats du monde, tous ces Jeux Olympiques. Je n'ai loupé que les championnats du monde de 2007, sinon j'ai tout fait, quoi.
Est-ce que tu as un souvenir marquant d'un cliché ou peut-être en sortie de compétition avec une émotion vive dans ses yeux où justement tu...
Il y a deux souvenirs. Il y en a un très très joyeux. C'est sa première médaille olympique à Londres, évidemment, parce qu'il est champion olympique. Pour lui, c'est la libération, parce qu'il était archi, archi favori en 2012. Il n'avait pas perdu depuis 2010. Donc il était archi favori, il gagne à Londres, donc il a une joie extraordinaire et il sort du tatami et j'étais juste derrière son coach de l'époque. Il descend du tatami, il vient vers moi, il m'embrasse. Ah Philippe, il me dit t'es là. Donc il m'embrasse devant tout le monde et même à la télé, le commentateur à l'époque dit mais il est devenu fou, il embrasse les photographes.
Il a trouvé plus fort que lui, il le sait, le public pousse derrière, 5 secondes. Teddy Riner le sait, il bouge. Teddy Riner a gagné son pari. Mission accomplie pour Teddy Riner qui devient champion olympique. Il a 23 ans, il est double champion d'Europe, 5 fois champion du monde, champion olympique. Jamais dans l'histoire du judo on a vu une telle domination. Teddy Riner, champion olympique.
C'est vrai que c'est incroyable que...
Ça, c'est un souvenir mémorable, parce que je m'y attendais pas du tout. Nous, on est là pour en faire notre job. L'autre souvenir plus triste, c'était 2 ans avant, à Tokyo, où pareil, il est archi favori, il est champion du monde des plus de 100 kilos, et le lendemain, il combat en toute catégorie et il perd. En finale, il est médaille d'argent. Et là, il pleure. Je le retrouve à l'hôtel le soir. Il est dans un état pitoyable. Voilà, c'est ces deux souvenirs qui m'ont marqué.
Ça doit pas être évident de saisir ces instants.
Là, on le laisse tranquille. C'est-à-dire qu'on fait les photos quand il est sur le tatami, quand il sort du tatami, sur le podium, il pleure, il veut pas monter sur le podium. Enfin, c'est une catastrophe. Et puis, il était encore jeune à cette époque-là, 2010, donc il le prend vraiment très très mal. Et là, en fait, on le laisse tranquille. Voilà. On est rentré à l'hôtel, il a demandé à son père, papa va me chercher un Big Mac. Et puis voilà, c'est tout. Après, on laisse passer l'orage. Puis comme c'est un mec joyeux, ben, le lendemain, il repart. Hein. Enfin, c'est le fait des grands champions, c'est que la déception ne dure jamais très longtemps. Ils prennent un coup de massue au moment où ça se passe. Et puis après, ils rebondissent. Comme ça.
Dans ton travail, tu essayes de te fondre le plus possible dans le décor pour être très discret et en fait prendre des clichés sans qu'ils s'en rendent compte. Ou alors tu mets en scène certaines tranches de vie.
On fait les deux en fait. Il y a deux aspects. On essaye d'être très discret dans ces moments de travail et de compétition. Ça il faut parce qu'il faut pas le déranger. Il est hyper concentré. Donc on se fait tout petit. Après, quand il s'agit de faire des photos avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, on peut monter des sujets. Effectivement, je les fais poser, je leur dis « l'endroit est magnifique là, vous allez là, tu la regardes ». Voilà. Enfin, c'est vraiment ça, c'est des photos montées. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Après, sur même des photos montées, souvent, la plupart du temps, parce que Teddy, sa femme, ses enfants ne sont pas des mannequins, donc souvent, on a des très très bonnes photos, juste après la séance ou juste avant, quand ils sont plus décontractés, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ce ne sont pas des mannequins et ils font ça. Alors Teddy aime bien les photos, c'est un très très bon client, il a un sourire incroyable, donc il adore les photos, mais déjà faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, il faut faire ça vite. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il faut le faire vite, bien et tout se passe bien.
C'est presque une qualité nécessaire aux photographes sportifs, en l'occurrence, d'être à côté de ceux qui brillent et même de les mettre en lumière, tout en étant, nous, dans l'ombre.
Exactement. C'est tout à fait ça. C'est parfait comme définition. C'est que nous, on est toujours derrière eux. On est toujours là pour les soutenir, pour les mettre en valeur. Et nous, on fait notre job. Mais après, nous, on n'a pas à être en lumière. Le festival là qui a lieu ici, Eddie met les photographes en lumière. C'est une chance exceptionnelle pour nous parce que en fait on est très peu en lumière.
Tes photos sur le festival millième de seconde, il y en a combien? C'est toi qui les as choisies?
Alors il y en a une vingtaine, je crois. Je crois qu'il en a choisi 20 ou 21. Eddie. Alors moi j'ai fait une présélection, je pense d'une centaine de photos. Et Eddie a choisi ce qui lui, pour lui, représentait un peu la carrière de Teddy. Moi, j'ai donné mon avis sur certaines photos qui étaient pour moi incontournables. Donc, je lui ai dit, celle-là, il faut absolument que tu les mettes. Et après, le choix s'est fait, oui, naturellement. Voilà, moi, je tenais à ce qui est, pour moi, une dizaine de photos incontournables de sa carrière.
Ça fait quoi d'avoir ces photos exposées comme ça au grand jour, ou même d'une manière plus générale, de voir ces photos publiées?
Bah, publier, c'est toujours sympa. Nous, on travaille dans le but que les photos, la finalité des photos, c'est d'être publiées. On fait pas les photos pour les garder, en archive. Là, sur le festival, c'est très très sympa parce que bon, là, il y a une photo de Teddy avec les médailles sur le pont. C'est des choses qu'on voit pas ailleurs. C'est une super idée d'avoir décoré le pont comme ça. Je crois que c'est une photo qui fait 45 mètres carrés. C'est nulle part, tu as ça, à part quand un siège social d'entreprise décore son siège avec des badges comme ça pour un partenaire ou un athlète qui sponsorise. Mais non, là, le festival, c'est vraiment une très très bonne idée. Et puis, je trouve que l'endroit s'y prête bien. Le village est super mignon. Moi, j'adore ce pont. Je sais pas pourquoi. Il est design, il fait un peu Eiffel et mettre des photos dessus, c'est encore mieux. Le décor. Et d'ailleurs, j'ai dit à Eddie qu'il faudrait qu'il fasse tout le pont avec des photos.
Quel mot tu souhaiterais dire? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à des jeunes qui souhaitent se lancer dans ce métier, à des personnes qui ont envie de pratiquer la photo sportive?
Alors ça, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent. Alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que il faut en vouloir, il faut bosser. Vraiment, au départ, ils font vraiment travailler beaucoup. Moi, mon premier job, ce que je leur dis aux jeunes actuellement, c'est que moi, mon premier job, j'ai pas eu de vacances pendant 5 ans. Je suis rentré dans l'agence, j'étais laborantin. À l'époque, on développait les films, il y avait pas de numérique. Hein. J'étais laborantin, je faisais du labo la semaine et de la photo le week-end. Et pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et une fois que tu montres que t'en veux, que t'es pas trop mauvais, Eh ben, tu passes naturellement photographe, tu deviens photographe à plein temps. Et puis, ça, alors c'est un boulot fabuleux quand t'es jeune. Tu voyages partout, tu rencontres plein de gens, tu vois vraiment des beaux pays, des beaux endroits. C'est un milieu très sympa, le sport. Franchement, les athlètes en général sont très sympas. Mais bon, voilà, il faut montrer de travailler et il y a une part de chance aussi. Il faut arriver au bon endroit, au bon moment. C'est vrai que c'est une part de chance énorme, mais le plus important, je pense, au départ, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi.
Merci, Philippe.
Bah, merci à vous.
Le festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Plus d'informations sur millièmedeseconde au pluriel.com.